Je vous invite à prier. Merci Père pour ce merveilleux repas que nous partageons ensemble, qui nous rappelle encore toute ta fidélité et toute ta perfection du salut que tu nous as donné en Jésus-Christ. Et merci encore parce que nous sommes cette famille qui sommes là aussi pour être nourris, non seulement par ce repas, mais aussi par ta parole. Et nous te demandons aussi de fortifier ton serviteur Armel, qu'il puisse être un porte-parole de toi ce matin encore pour notre assemblée, et que cette parole soit esprit et vie dans nos cœurs pour nous encourager, nous renouveler dans la foi, l'obéissance que tu es digne de recevoir de nous. Que ton Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse et nous fortifie à l'écoute de cette parole. Et merci de conduire notre frère maintenant, au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Amen. Merci. Merci, Rénal. Bonjour à tous. Alors, je vais introduire ce message en citant une parole de notre groupe de musique favori, c'est-à-dire Yatal. Une des paroles est « Ticket en main, cette fois, on part loin ». Et effectivement, ce matin, on va voyager loin avec l'apôtre Paul. Ça fait bientôt un mois que nous sommes en voyage, en chemin avec l'apôtre Paul. Et réellement, dans l'église, il y a deux personnes qui ont leur ticket en main pour aller voyager sur les traces de l'apôtre Paul. Ce sont des chanceux. Et donc, jusqu'à présent, on a eu déjà trois prédications. Raphaël nous a parlé de la conversion de l'apôtre Paul. Stéphane nous a parlé de son premier voyage missionnaire. Et Rénald nous a parlé la semaine dernière de son deuxième et troisième voyage missionnaire. Et moi, ce matin, je vais vous parler de son arrestation, de son emprisonnement et de la fin de son ministère. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous poser une petite question. Vous le savez peut-être déjà, à vol d'oiseau, Grenoble se situe à 3000 km de Jérusalem. Et ma petite question est la suivante. Est-ce que vous saviez comment est-ce que Grenoble était appelée à l'époque de l'apôtre Paul, c'est-à-dire au 1er siècle ? Gracianopolis. C'est la réponse que j'attendais, mais ce n'est pas la bonne réponse. En fait, à l'époque de l'apôtre Paul, c'est ça, Coularo. Grenoble s'appelait Coularo. Et c'est à partir de 381 après Jésus-Christ que Grenoble s'est appelé Gracianopolis. Donc, j'aimerais pouvoir refaire très très rapidement le trajet que l'apôtre Paul a parcouru. Donc l'apôtre Paul est parti de Jérusalem. Il s'est ensuite dirigé vers Damas afin d'aller persécuter l'église, les chrétiens. Et à Damas, sur le chemin de Damas, il va rencontrer le Seigneur et se convertir. Il va revenir à Jérusalem et là il va être persécuté. Les responsables de l'église de Jérusalem vont l'envoyer chez lui à Tarse, en Cilicie. Une fois arrivé à Tarse, c'est Barnabas qui va aller le chercher en partant d'Antioche. Antioche, on en a parlé la semaine dernière, c'est une des églises mères, l'église de laquelle Paul va partir pour tous ses voyages missionnaires. D'Antioche, Paul va partir avec Barnabas pour le premier voyage missionnaire. Ils vont passer à Chypre, à Salamine, à Paphos, ensuite ils vont passer à Antioche, à Iconium, à Lystre et à Derbe. Donc les églises de la Galatie, ça c'est le premier voyage missionnaire. Ils vont rebrousser chemin et repasser par toutes ces églises pour les encourager et finalement revenir à Antioche. Et de là, à Antioche, il va y avoir une dissension entre Paul et Barnabas. Ils vont se séparer. Barnabas va décider de prendre avec lui Jean-Marc et ils vont partir pour Chypre, tandis que Paul, avec Silas, vont se diriger vers la Cilicie et la Galatie, en repassant certainement par Tarse, la Bible ne nous le dit pas, mais certainement par Tarse, par les églises de la Galatie, Derbe, Lystre, Iconium, Antioche de Pisidie, et Paul va aller jusqu'à Troas. Et c'est à Troas qu'il va avoir la vision de ce Macédonien qui va lui demander de venir en Macédoine. Et là, Paul va aller en Macédoine, il va aller passer par Philippe, par Thessalonique et par Bérée. Donc ça, c'est en Macédoine. Et par la suite, il va se rendre en Achaïe en passant par Athènes et par Corinthe. Et à Corinthe, Paul va faire un passage très très rapide à Éphèse pour ensuite se rendre à Jérusalem en passant par Césarée. Et il va ensuite retourner à Antioche. Ça, c'était le deuxième voyage missionnaire. Et le troisième voyage missionnaire, Paul va reprendre exactement le même trajet. Il va passer par Tars, par Derbé, par Lystre, Iconium, donc les églises de la Galatie. Et là, il va aller à Éphèse. Éphèse, c'est une étape particulière. À Éphèse, qu'est-ce qui va se passer ? Paul va dire une chose, c'est dans Actes 19, verset 21. Après ces événements, Paul, poussé par l'Esprit, décida de se rendre à Jérusalem en passant par la Macédoine et l'Achaïe. Après avoir été là-bas, dit-il, il faudra que je me rende aussi à Rome. Donc Paul savait déjà qu'il devra se rendre à Rome. Quand il parle de ces événements, les événements dont il parle sont les événements qui se sont déroulés juste avant, parmi lesquels Paul, le Seigneur va accomplir des miracles extraordinaires par la main de Paul à Éphèse. Ensuite, il est aussi question des sept fils de Sceva qui vont essayer de chasser un démon en proclamant le nom de Jésus que Paul prêche. Et cette histoire elle va être connue de tous. Et il est aussi question des livres de magie qui ont été brûlés par les croyants d'Éphèse pour 150 000 pièces d'argent. 150 000 pièces d'argent, donc des livres de magie. Éphèse, en fait, est donc une étape toute particulière du voyage de Paul. Et on voit aussi dans ce passage, je l'ai souligné en bleu, Paul est poussé par l'Esprit. Et vous allez voir dans les autres passages que je présenterai par la suite, on va voir comment est-ce que le Seigneur a conduit Paul dans son voyage. Et Paul sait déjà, il sait déjà qu'il va se rendre à Rome en passant par Jérusalem et en passant en Macédoine et en Achaïe. On va passer donc de Éphèse, Paul va partir... va passer par Troas, se rendre, donc, comme prévu, en Macédoine, donc Thessalonique, Bérée, en Achaïe ensuite, à Athènes et à Corinthe. Une fois arrivé à Corinthe, dans Actes 20, verset 3, on peut lire « Au moment où il allait s'embarquer pour la Syrie, il apprit que les Juifs avaient formé un complot contre lui. Il décida alors de repasser par la Macédoine. » Donc il va rebrousser chemin et repasser par la Macédoine, par... Thessalonique, Philippe, Troas, et là, il va revenir à Éphèse, mais pas tout à fait à Éphèse, il va aller à Milet, à 50 km d'Éphèse. Et là, à Milet, il va y avoir l'un de mes passages préférés dans le livre des Actes. Paul va faire un discours très émouvant. Il va rencontrer les anciens de l'église d'Éphèse, et il va prononcer un long discours que je ne vais pas lire, je veux juste citer certains passages, et c'est un discours qui va se terminer en sanglots. Paul, il va faire appel à la mémoire des Éphésiens pour parler de ses enseignements, de son enseignement de la bouche, c'est-à-dire les prédications qu'il a pu faire, et aussi de l'enseignement de sa vie, c'est-à-dire par le témoignage qu'il a pu accomplir sur place. Il a annoncé la parole, toute la parole sans rien cacher, je cite, « Sans rien vous cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui pouvait vous être utile. » J'ai appelé juifs et grecs à se tourner vers Dieu et à croire en Jésus-Christ notre Seigneur. Au milieu de vous, de qui j'ai passé en prêchant le règne de Dieu, car je voulais annoncer tout le plan de Dieu sans rien passer sous silence. Donc il va prêcher le règne de Dieu, il va le prêcher sans relâche, sans cesse. Tout le temps que j'ai passé parmi vous depuis le jour de mon arrivée dans la province d'Asie, pendant 3 années, la nuit comme le jour, sans cesse, je n'ai cessé de vous conseiller. Il va témoigner par son comportement. On le voit dans ce passage, il va dire « Je n'ai cessé de vous conseiller un à un, et parfois même avec les larmes. Regardez mes mains, ce sont elles qui ont pourvu à mes besoins et à celles de mes compagnons. Je vous ai montré partout et toujours qu'il faut travailler ainsi pour aider les pauvres. » Paul donc va mentionner toutes ces choses et il va finir en disant qu'ils ne le reverront plus. Les responsables de l'église d'Éphèse ne le reverront plus. Il les prévient également des dangers qui les guettent. Il leur dit « Veillez donc, soyez donc vigilants. » Et il va aussi leur parler des difficultés qui l'attendent de lui, notamment à Jérusalem. Éphèse, C'est donc une étape toute particulière. Et dans ce discours de l'apôtre Paul, j'ai relevé quelques versets que je vais lire avec vous, à partir du verset 22. « Et maintenant, me voici en route pour Jérusalem. L'Esprit m'y oblige. J'ignore ce qui m'y arrivera. Tout ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître bien des souffrances. » Paul est en route pour Jérusalem. Il y est obligé par le Saint-Esprit. L'Esprit l'avertit qu'il va être emprisonné et qu'il va souffrir. Et Paul va alors prononcer cette parole qui est forte, qui est puissante. « Ma vie ne m'importe peu, je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » C'est un verset, ce verset 24, qui résume tout le voyage de l'apôtre Paul. Et ce verset, on va revenir dessus tout à l'heure. Par la suite, donc, Paul de Milet, donc, avec ses compagnons, ils vont partir donc, pour la Syrie, ils vont arriver à Tyr et à Césarée. À Tyr et à Césarée, ils vont rencontrer des croyants, notamment à Tyr. Il y avait, je lis dans Actes 21, verset 4, « Il y avait là des disciples, après les avoir trouvés, nous sommes restés 7 jours avec eux. Or ceux-ci, poussés par l'Esprit, conseillaient Paul de ne pas se rendre à Jérusalem. » Donc les habitants de Tyr vont être poussés par l'Esprit et vont dire à Paul de ne pas se rendre à Jérusalem. C'est curieux, pourtant c'est le même Esprit qui a dit à Paul juste auparavant qu'il devait se rendre à Jérusalem et qu'il souffrirait. Quand on regarde, je me suis un peu documenté, notamment un commentaire de la Bible du Sommeur dit ceci. Certains pensent qu'il faut distinguer la prophétie de son interprétation. La prophétie étant que Paul doit aller à Jérusalem et il va souffrir, et son interprétation est que les disciples de Tyr, en fait, sont inquiets. Ils recommandent à Paul de ne pas aller à Jérusalem. Et d'autres suggèrent, en fait, d'appliquer l'enseignement de l'apôtre Paul, qui est donné dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 29. Il invite à juger les prophéties. Mais en tous les cas, on sait que Paul va aller à Jérusalem et c'est la volonté du Seigneur. Notamment, lorsque Paul se rend à Césarée, dans la maison de Philippe l'évangéliste, il y a un prophète nommé Agabus qui va venir. Agabus va dire cette chose et va faire cette prophétie. Il vint nous trouver, prit la ceinture de Paul et s'en servit pour s'attacher les pieds et les mains. « Voici ce que déclare l'Esprit Saint, dit-il. L'homme à qui appartient cette ceinture sera attaché de cette manière par les Juifs à Jérusalem, puis ils le livreront entre les mains des païens. » Inspiré par l'Esprit, cette prophétie est mimée. Et on apprend justement que Paul va être livré entre les mains des païens, tout comme le Seigneur Jésus. Ensuite, à Césarée, je lis à partir du verset 12, « En entendant cette déclaration, nous avons supplié Paul, nous et les croyants de Césarée, de ne pas monter à Jérusalem. Mais il nous a répondu, « Que faites-vous là? Voulez-vous me briser le cœur avec vos larmes? Je suis tout à fait prêt, moi, non seulement à aller en prison, mais même à mourir à Jérusalem pour le Seigneur Jésus. » Ce verset aussi est un bon résumé de ce que l'apôtre Paul va vivre, notamment à Jérusalem. Donc, la suite du voyage de Césarée, Paul et ses compagnons vont donc aller à Jérusalem. Et arrivé à Jérusalem, Paul va expliquer à l'église de Jérusalem tout ce que le Seigneur a accompli. Les frères de Jérusalem vont accueillir la nouvelle avec joie, mais ils vont aussi dire à Paul un problème qui est survenu à Jérusalem. En effet, certains juifs à Jérusalem, devenus croyants, avaient entendu dire que Paul enseignait à tous les juifs disséminés dans l'Empire romain de ne plus respecter les coutumes juives. Ce qui était faux, Paul n'enseignait pas cela. Et en fait, c'était certainement une rumeur ou une confusion par rapport à un enseignement qui a été donné aux païens qui se sont convertis au christianisme. Et les responsables de l'Église vont donc lui conseiller de s'associer avec des chrétiens qui sont très attachés à la loi juive et de les encourager dans leur pratique. Et Paul va suivre ce conseil. Et c'est ainsi que Paul, il va être arrêté. Je vais vous lire ce passage, ces 10 versets dans le chapitre 21, à partir du verset 26, qui raconte l'arrestation de l'apôtre Paul. Le lendemain donc, Paul emmena ses hommes et participa avec eux à la cérémonie de la purification. Puis il entra dans la cour du temple et il déclara à quelle date la période de la purification serait achevée, c'est-à-dire à quel moment on offrirait le sacrifice pour chacun d'eux. La semaine exigée pour la purification allait s'achever lorsque des Juifs de la province d'Asie virent Paul dans la cour du temple. Ils ameutèrent toute la foule et se jetèrent sur lui en criant « Israélite, au secours ! Le voilà celui qui ne cesse de prêcher partout et à tout le monde contre notre peuple, contre la loi de Moïse et contre ce temple. Et même, à présent, il a introduit des païens dans l'enceinte sacrée. Il a souillé ce saint lieu. » Il disait cela parce qu'ils avaient vu Trophime d'Éphèse en ville avec lui. Et il s'imaginait que Paul l'avait fait entrer dans la cour intérieure du temple. L'agitation gagna la ville tout entière et le peuple accourut en foule de toutes parts. On s'empara de Paul et on le traîna hors de la cour du temple, dont on ferma immédiatement les portes. On cherchait à le mettre à mort. Quand le commandant de la garnison romaine fut informé que tout Jérusalem était en effervescence, aussitôt, il rassembla des soldats avec leurs officiers et se précipita vers la foule. Dès qu'on aperçut le commandant et les soldats, on cessa de battre Paul. Alors le commandant s'approcha, fit saisir Paul et donna ordre de le lier avec une double chaîne. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient une chose, les autres une autre, et le commandant ne put rien savoir de sûr sur le tumulte. Alors il ordonna de conduire Paul à la forteresse. Quand Paul commença à gravir les marches de l'escalier, les soldats, devant la violence de la foule, se virent obligés de le porter à bras le corps. En effet, tout le peuple le suivait en hurlant « À mort !» Paul est donc accusé par les Juifs d'Éphèse, ce sont les Juifs de la province d'Asie qui sont à Jérusalem, de prêcher contre la loi de Moïse, contre le peuple de Jérusalem, et contre le peuple juif et contre le temple. Ils vont aussi l'accuser d'avoir introduit au sein du temple un païen, chose qui était impure, qui souillait le lieu saint. Tout cela était faux, c'était des accusations fausses. Donc une grande agitation va secouer la ville et ils veulent tuer Paul. Cela nous rappelle un peu ce qui est arrivé à notre Seigneur lorsqu'il est à Jérusalem et que la foule criait « Crucifiez-le, crucifiez-le !» Par la suite, Paul, au moment où il va être conduit donc à la citadelle, à la forteresse, il va demander la permission de s'adresser à la foule. Et le commandant va lui permettre. Et il va se défendre en donnant d'abord son témoignage de qui il était auparavant. Il en fait appel à la mémoire de ses compatriotes qui l'ont vu vivre avec eux. Il va parler de sa rencontre avec le Seigneur sur le chemin de Damas. Il va parler aussi de la mission qui lui a été confiée d'annoncer l'évangile aux païens. Et à ces mots, la foule va être encore plus en colère. Pourquoi ? Parce qu'il était impensable que Dieu puisse sauver des païens. Paul va ensuite être emprisonné dans cette forteresse par les soldats romains, et son emprisonnement va commencer. Cet emprisonnement va durer très très longtemps. C'est ce que nous allons voir par la suite. En prison, le commandant, qui s'appelle Claudius Lysias, il va décider de faire torturer Paul afin de lui faire, en quelque sorte, cracher le morceau. Il veut comprendre ce qui se passe. Et Paul, avant de se faire battre, va révéler qu'il est un citoyen romain et que les soldats n'avaient ni le droit de l'enchaîner, ni le droit de le battre sans l'avoir jugé. Et ils vont donc prendre peur et le commandant donc va décider d'organiser une rencontre entre Paul et le grand conseil, c'est-à-dire le Sanhédrin, le grand conseil juif. Et pendant ce procès, Paul, astucieusement, va mentionner son espérance en la résurrection des morts, chose qui était vraie. Mais c'est une chose qui va diviser le Grand Conseil, parce que le Grand Conseil est composé de Sadducéens et de Pharisiens. Les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts, alors que les pharisiens si. Certains pharisiens vont même jusqu'à prendre parti pour Paul et vont même le défendre. Mais la discussion va s'envenimer et Paul va donc être reconduit dans la citadelle. Et la nuit suivante, le Seigneur va lui parler dans la nuit, donc au chapitre 23, verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et lui dit « Courage, tu as été mon témoin à Jérusalem, il faut que tu le sois aussi à Rome. » Et par la suite, il y a, entre-temps, il y a 40 personnes, 40 juifs, qui vont décider de former un complot contre Paul. Ils vont lui tendre un guet-apens. Et fort heureusement, il y a le neveu de Paul qui va entendre parler de l'histoire et il va se rendre à la citadelle et prévenir Paul et prévenir aussi ce commandant romain. Et ce dernier va décider de le transférer en secret chez le gouverneur Félix à Césarée. Ces 40 hommes avaient décidé de ne plus rien manger, de jeûner et de ne rien boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Et donc c'est en secret que Paul va être transféré. Et arrivé donc, Paul va partir de Jérusalem et va arriver à Césarée, où il va arriver chez le gouverneur Félix, accompagné d'une lettre, une lettre écrite par le commandant romain. Ce commandant, dans la lettre, explique que les accusations portées contre Paul ne méritaient ni la prison et ni même la mort. Paul est donc mis en résidence surveillée par le gouverneur Félix. Pendant longtemps, il va rester donc emprisonné. Et pendant ce temps-là, il va rencontrer différents hauts personnages romains, notamment au cours de différents procès. Le premier procès va avoir lieu avec le gouverneur Félix et aussi avec le conseil juif qui s'est rendu à Césarée pour porter plainte contre Paul. En fait, ils vont accuser Paul en disant que cet individu est un danger public, il provoque des troubles et, dans tout le monde entier et il est le chef de la secte des Nazaréens. Et il a même tenté de profaner le temple. Tout cela était faux, toutes ces accusations étaient fausses, et Paul va se défendre et, en disant qu'il n'avait commis aucune faute, ni contre le temple, ni contre le peuple juif, et ni contre César. Et il va dire même que ses accusateurs n'ont aucune preuve, chose qui était vraie. Et devant le gouverneur Festus, qui est le remplaçant de Félix, Paul va même en appeler à César. Lui qui était citoyen romain, il pouvait se le permettre. Il va faire appel à César, et avant d'être transféré à Rome, parce qu'il a fait appel à César, il va comparaître aussi devant le roi Agrippa. Et devant le roi Agrippa, Paul va raconter toute son histoire, de sa jeunesse à Jérusalem, du persécuteur qu'il était, sa conversion sur le chemin de Damas et sa mission. Les chefs romains vont lui poser des questions, et Paul va toujours saisir l'occasion de témoigner. Il va témoigner de la grâce que le Seigneur lui a faite. Et notamment, il va dire cette phrase devant le roi Agrippa, acte 25, verset 22. « Mais j'ai été protégé par Dieu jusqu'à ce jour, et je suis donc encore là pour apporter mon témoignage aux gens d'humbles conditions comme aux personnages importants. » Chose que Paul était en train de faire devant ses responsables romains. Tous vont reconnaître que Paul ne méritait pas la mort, ni même la prison. Même le roi Agrippa va le reconnaître. Paul va alors être transféré à Rome sous la garde d'un officier nommé Julius, et cet officier lui témoignait une grande bienveillance. Et Paul était accompagné de Luc et d'Aristarque. Aristarque, c'est un Macédonien de la ville de Thessalonique. Et donc, avec ses amis, Paul va être transféré à Rome en passant par Sidon. Ils vont rencontrer de grandes difficultés pendant la navigation. Ils vont passer par Myra et pendant plusieurs jours, la navigation va être difficile. Ils vont rencontrer des vents impérieux et ils vont accoster en Crète, à Beauport, précisément. Et Paul va recommander à Julius, donc ce commandant cet officier romain, de rester sur place parce que la tempête devait arriver, il le savait, et Paul ne va pas être écouté. Finalement, ils vont décider de partir et ils vont, en fin de compte, échouer à Malte. Mais entre-temps, ils vont faire un naufrage. Que va-t-il se passer ? Donc, il va y avoir cette tempête. Pendant 2 semaines, ils vont être ballottés. La nuit, enfin, pendant plusieurs jours, ils ne voyaient même plus le soleil, ni même les étoiles, pendant plus de 2 semaines. Et la nuit, un ange du Seigneur va apparaître à Paul et lui dire qu'il va être, sain, il va sortir sain et sauf de cette tempête, ainsi que tous ses compagnons de fortune, je dirais, et qu'il faut qu'il comparaisse devant l'empereur. Paul, en quelque sorte, va se transformer en capitaine du navire. Il va encourager ses collègues à bord de prendre des forces, de manger, parce que justement, ils vont faire naufrage. Et c'est ce qui va arriver. Ils vont faire naufrage et ils vont atterrir sur une île, donc l'île de Malte. Arrivés à Malte, ils étaient 276 à bord et tous sont sortis sains et saufs. Arrivés à Malte, les habitants vont leur témoigner une bienveillance, ils vont les accueillir, ils vont allumer un feu pour les réchauffer. Et là, il y a cet épisode assez connu d'un serpent qui va semble-t-il mordre Paul en ramassant du bois pour alimenter le feu. Les habitants de Malte pensaient que Paul allait mourir et pensaient que c'était la justice qui s'accomplissait et que Paul était certainement un meurtrier. Et en fin de compte, Paul ne va pas mourir et ils vont le prendre pour un dieu. Paul, ensuite, toutes ces personnes qui ont atterri sur l'île de Malte vont être accueillies par le premier personnage de l'île, qui s'appelle Publius. Il va les accueillir pendant 3 jours chez lui. Et le Seigneur va utiliser Paul chez cet homme pour guérir son père qui était malade. Et par la suite, tous les malades de l'île de Malte vont venir voir Paul, et le Seigneur va utiliser Paul pour guérir tous ces malades. Et pendant trois mois plus tard, au moment de repartir, les habitants de l'île de Malte vont pourvoir à tous les besoins pour le voyage de Paul et de ses compagnons. Ils vont donc voyager et se rendre à Rome en passant par Syracuse, par Reggio, par Pouzlos. Ils vont rester un petit peu de temps dans cette ville où ils vont rencontrer certains chrétiens et finalement arriver à Rome. Et arrivés à Rome, ils vont être accueillis aussi par des croyants qui vont venir à leur rencontre, chose qui va grandement encourager Paul. Donc, à Rome. Tous les chemins mènent à Rome. Donc, on est en chemin avec Paul, il arrive à Rome, et dans l'Antiquité, cette expression était utilisée, notamment, c'était lié au fait que, effectivement, toutes les voies étaient censées converger vers Rome, mais apparemment, j'ai fait quelques recherches là-dessus, cette phrase a été écrite par un certain Alain de Lille au XIIe siècle dans une acception chrétienne. Et cela voulait dire, tous les chemins mènent à Rome, cela voulait dire, 1000 routes conduisent depuis des siècles à Rome, les hommes qui désirent rechercher le Seigneur de tout leur cœur. C'est merveilleux, Paul qui cherche le Seigneur de tout son cœur est conduit à Rome. Et aujourd'hui, cette expression, quand on regarde dans le Petit Larousse, elle est traduite ainsi. Il existe plusieurs manières d'atteindre un seul et même objectif, même si certaines peuvent être plus longues et complexes que d'autres. Et là, effectivement, le voyage de Paul, qui avait pour objectif Rome, était complexe et très très long. L'arrivée à Rome. Paul va être logé à Rome, dans un appartement personnel, sous la garde d'un soldat. Il va être témoin à Rome. Comme à son habitude, il va d'abord s'adresser aux Juifs qui étaient sur place. Il va leur annoncer la bonne nouvelle. Certains vont se laisser persuader, d'autres non, d'autres vont refuser. Et je vais vous lire un passage dans Actes 28 à partir du verset 30. Paul resta 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il y recevait tous ceux qui venaient le voir. Il proclamait le règne de Dieu et enseignait avec une pleine assurance et sans aucun empêchement ce qui concerne le Seigneur Jésus. Concernant la fin du ministère de Paul, donc à Rome, on apprend notamment en parcourant toutes les lettres que Paul a écrites que Paul a eu par la suite un ministère en Espagne, donc il a semble-t-il été libéré. Il est aussi passé par la Crète, en Éphèse, et puis en Macédoine. Ça, on peut le voir notamment dans l'épître à Tite, dans l'épître à Timothée notamment, dans l'épître à Titre, on apprend également qu'il est passé à Nicopolis en Grèce. Donc Paul va effectuer un quatrième voyage missionnaire. Lors de sa partie, Raphaël avait présenté une fiche de renseignement que j'ai voulu reprendre en y ajoutant les nouveaux éléments que nous avons eus. Donc Paul s'appelle donc toujours Paul, il est né toujours en l'an 5, il est originaire de Tars, il est de nationalité romaine, donc toujours ça n'a pas changé, toujours israélite de la tribu de Benjamin. Sa résidence actuelle, ce n'est plus Jérusalem, il est à Rome, donc on le trouve à Rome. Sa profession, il est prisonnier, mais aussi apôtre du Seigneur, et notamment apôtre des païens. Sa religion, il n'est plus juif, mais il est chrétien. Il s'est converti en l'an 34. Sa passion, ce n'est plus la loi juive, mais c'est l'annonce de la bonne nouvelle et l'écriture, parce que Paul va écrire de nombreuses lettres. Et c'est son sport favori, ce n'est plus l'expédition à cheval ou le lancer de pierre, mais c'est la course. Pourquoi la course ? Je vais y venir. Avant cela, je vais simplement mentionner la mort de Paul. En fait, il va mourir pendant une persécution qui a lieu à Rome en l'an 64 ou 65, on n'est pas très sûr, ça peut aussi être en l'an 67 et entre 67 et 68. Il va être emprisonné et il va mourir martyr à Rome. Donc, voilà, je vous disais, son sport favori était la course. Et pour conclure, vous savez que à la fin de ce mois, il y a les Jeux Olympiques qui vont commencer. Les Jeux Olympiques de Rome. De Londres. J'ai été un peu rapide. Et j'espère que vous n'avez pas lu. Mais je vais vous poser quand même la question. Est-ce que vous pouvez me citer le nom d'un athlète célèbre que vous connaissez ? D'un athlète qui va peut-être participer aux Jeux Olympiques ou qui a déjà participé ? Usain Bolt. Ouais. Un autre ? Un Français ? Ah, je ne connais pas. Christophe Lemaître, bien sûr. J'attendais en fait ces réponses. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le sprint, et tout le monde regarde le sprint, tout le monde aime le sprint, mais la course d'endurance, le marathon, est beaucoup moins connue. Et je voulais vous parler d'un célèbre marathonien qui s'appelle Gebrselassie. C'est un coureur de fond. Il a été coureur de fond. Il est éthiopien. Il a remporté 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Il a notamment établi de nombreux records, notamment celui du marathon. 42 km qu'il a parcouru en 2 heures, 3 minutes et 59 secondes à Berlin en 2008. Et il a aussi gagné ce marathon 4 fois d'affilée. Il a aussi reçu un prestigieux prix. C'est le prix des princes des Asturies dans la catégorie du sport. C'est un prestigieux prix qui en fait récompense des travaux d'envergure internationale. Son palmarès et ses performances font de lui l'un des athlètes les plus forts, les plus grands coureurs de son temps. Et bien sûr, aujourd'hui, il ne court plus. Et qu'en est-il de l'apôtre Paul ? Paul, depuis sa conversion sur le chemin de Damas jusqu'à son incarcération donc à Rome, Paul, il a couru, il a fait une course. Et il en a parlé lui-même donc dans un verset que je vous ai lu et que je vais vous montrer. Quel est le palmarès de Paul ? Est-ce que lui aussi, il n'aurait pas pu aussi gagner ce prestigieux prix, je ne sais pas, dans la catégorie de l'évangélisation, par exemple ? Ce n'était pas lui le plus grand apôtre de tous les temps ? Quel était son palmarès ? A-t-il transformé 100 000 vies, peut-être ? A-t-il fondé plus d'une trentaine d'églises ? Certainement. Mais ce n'est pas ça que Paul va donner comme palmarès. Je vais vous lire un passage dans 2 Corinthiens, à partir du verset, chapitre 11, à partir du verset 22. « J'ai été plus souvent en prison, j'ai essuyé infiniment plus de coups, plus souvent j'ai vu la mort de près. 5 fois j'ai reçu des juifs les 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été fouetté, 1 fois lapidé, j'ai vécu 3 naufrages, j'ai passé un jour et une nuit dans la mer. » Souvent en voyage, j'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans les régions infestées de brigands, en danger à cause des juifs, en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères, en danger dans les contrées désertes. J'ai connu bien des travaux et des peines, de nombreuses nuits blanches, la faim et la soif, de nombreux jeûnes, le froid et le manque d'habits, et sans parler du reste, je porte mon fardeau quotidien, le souci de toutes les églises. En effet, qui est faible sans que je sois faible? Qui tombe sans que cela me brûle? Oui, s'il faut se vanter, c'est de ma faiblesse que je me vanterai. Voilà le palmarès de Paul. Voici toutes les villes qu'il a parcourues. Bien sûr, pas Coularo, mais toutes ces églises qui ont été parcourues par l'apôtre Paul. Concernant sa course, si je peux donner quelques caractéristiques de la course de Paul pour conclure, Paul a été conduit par le Seigneur, on l'a vu, l'Esprit lui a parlé, il a été poussé par l'Esprit. À Éphèse, à Milet, à Troas, il va avoir une vision. Et finalement, il va aller là où le Seigneur avait prévu qu'il aille. Nous avons également vu la semaine dernière que la course de Paul ne s'est pas faite seule. Elle a été faite en équipe. Il a fait son voyage à Rome avec Luc notamment et avec Aristarque. Il a été accompagné de Timothée parfois, de Tite. Il a aussi délégué des responsabilités à ces personnes. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais Reynald en avait parlé la semaine dernière. Et un troisième point, la course de Paul était déterminée. Elle était déterminée, pourquoi ? Parce que Paul avait un objectif dans sa course. Il a couru avec un objectif. Et je vais vous relire Acte 20, verset 24. Donc, dans le discours qu'il prononce aux anciens d'Éphèse, il va dire « Ma vie ne m'importe peu. Je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Paul a toujours saisi l'occasion d'annoncer le Seigneur à ceux qui étaient présents. Il a toujours saisi l'occasion. Dans Acte 21, nous l'avons vu aussi, il va dire « Je suis tout à fait prêt, moi, non seulement à aller en prison, mais même à mourir à Jérusalem pour le Seigneur Jésus. » Paul a été averti des souffrances qu'il allait vivre et malgré tout, il était prêt à aller en prison et à souffrir pour le Seigneur. Jésus a dit « Aucun serviteur n'est plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils ont obéi à mon enseignement, ils obéiront à votre enseignement. Le disciple suit le chemin de souffrance de son maître. » Et c'est ce qui est arrivé à Paul. À Tyr et à Césarée, on l'a lu, les disciples vont tenter de dissuader Paul de se rendre à Jérusalem. Et malgré tout, il va y aller. Il va y aller parce qu'il est poussé par le Seigneur. Et je voulais lire ce passage, mais Reynald l'a lu dans son introduction, dans Philippiens, qui est un passage fort aussi, où Paul parle de la course qu'il fait et qu'il avance en oubliant ce qui est derrière lui, qui montre vraiment comment est-ce que Paul était déterminé dans ce qu'il faisait. Et maintenant, j'en viens à nous, qui sommes aujourd'hui à Grenoble, à 3000 km de Jérusalem. Nous sommes dans une ville qui est très active. Nous avons plusieurs églises. Notre église est très active dans l'évangélisation. Mais j'ai plusieurs questions à nous poser, à nous. Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes dans une course et dans une course d'endurance? Quel est le service que le Seigneur nous a confié à nous, à chacun d'entre nous? Est-ce que nous sommes prêts à l'accomplir pleinement et jusqu'à son bout? Comme Paul l'a dit, est-ce que nous prenons le temps de demander la direction au Seigneur? Comme Paul a été conduit par l'Esprit, est-ce que nous prenons le temps dans la prière de demander à Dieu de nous conduire dans nos choix, dans nos décisions? Le Seigneur veut que nous soyons tous ici présents, tous des témoins là où il nous a placés, dans notre travail, moi dans mon laboratoire. Est-ce que nous demandons à Dieu de nous donner des opportunités de parler de lui à ces personnes vers qui il nous envoie? Et est-ce que nous saisissons ces opportunités quand elles se présentent? Dans Colossiens 4, on peut lire à partir du verset 5, « Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec les gens qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. » Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre à chacun. Dans notre témoignage, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour le Seigneur? Quelquefois, des fois, simplement dire que nous sommes chrétiens, c'est déjà quelque chose d'important. C'est vrai qu'après, il faut que les actes et les paroles suivent. mais nous ne sommes pas parfaits. Et l'important, c'est que lorsque nous nous trompons ou lorsque nous faisons des fautes, des erreurs, que nous demandions pardon et que nous pardonnions aussi, parce que nous avons été pardonnés, comme nous l'avons vu lors de l'introduction à la scène. Dans Matthieu 5, le Seigneur Jésus lui-même va dire « C'est ainsi que votre lumière doit luire devant les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. » À cause de ce témoignage, est-ce que nous sommes prêts à souffrir, même injustement, pour le Seigneur ? Dans 1 Pierre, chapitre 2, et c'est là que je vais conclure, au verset 12, on peut lire « Ayez une bonne conduite au milieu des païens, ainsi, dans les domaines où même ils vous calomnient, en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. » Dans, pour finir, j'avais un slide, si ça veut bien passer. Voilà. Dans quelle course sommes-nous et quels sont nos objectifs ? Voilà, je vous remercie.
Bien, merci Armel pour ce grand voyage final de l'apôtre Paul qui nous entraîne.